Bienvenue sur le podcast Balance ton héroïne. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Assa Traoré, qui a accepté mon interview. Alors, il faut dire que notre rencontre est une rencontre totalement improvisée, puisqu'elle se déroule dans une des rues parisiennes. Et c'est vrai qu'Assa, moi, je la suis depuis de longs mois sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, cette femme charismatique passe à côté de moi dans une rue parisienne et clairement, je la reconnais de suite. Et il me faut quelques secondes pour reprendre mes esprits. Je la suis et là, c'est la connexion avec Assa. Et aujourd'hui, moi qui avais très envie de la recevoir au micro de Balance ton héroïne, elle est là et on va pouvoir parler de sa vie et de son parcours, de tout ce qui se passe depuis ces quelques années, depuis surtout ce moment, ce 19 juillet 2016. Assa, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur le podcast Balance ton héroïne.
Merci pour l'invitation.
Merci d'être là parce que j'ai vu que tu étais sur le terrain tout le week-end. Je t'ai vu sur le terrain, je t'ai vu aux côtés des associations. Je sais aujourd'hui quel leader et porte-voix tu es. Et comme il est important en fait que tu sois auprès de certaines associations. Pour un retour en arrière, le 19 juillet 2016, tu perds ton frère Adama Traoré, qui meurt dans des conditions très très difficiles. Et il y a tout un combat pour la fratrie, 17 frères et sœurs, et notamment tes parents. Donc tout un combat pour cette fratrie que vous êtes, qui va se développer. Et moi aujourd'hui, la question que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'au cœur de cette fratrie, c'est toi, Assa, qui es décidé de porter ce combat Comité Vérité et Justice pour Adama?
Ce 19 juillet 2016, c'est le jour de l'anniversaire de mon petit frère. Mon frère venait d'avoir, c'est le jour de ses 24 ans. Moi, j'étais pas là, j'étais parti deux jours avant. Pour la petite histoire, je pars en Croatie pour un déplacement professionnel. Et le dimanche 17, je dépose mes enfants à la maison. Je suis mère de trois enfants et je vois tous mes petits frères sauf Adama. Et je l'appelle vers aux alentours de 17h. Je lui dis « Madama, où es-tu ? » Je voulais te voir, je voulais t'embrasser parce que je voyage et je voulais te faire un bisou avant de partir. J'ai vu tout le monde sauf toi. Et il me dit « Je suis parti à Paris, mais si tu veux, je reviens. » Je lui dis « Non, non, on se revoit la semaine prochaine. Je t'ai commandé un cadeau qui arrivera pour ton anniversaire et je prends l'avion. » Je prends l'avion, je pars, je vois pas mon petit frère. Et le 19 juillet, le jour de ton anniversaire, le matin, on s'écrit sur Facebook. Je lui souhaite un bon anniversaire, il me répond « Merci ma grande sœur », on s'envoie des cœurs. Quelques heures après, on m'appelle, on me dit que mon frère il est mort. J'y crois pas, mais je me dis, si on me le dit, c'est que c'est vrai. Donc tout de suite, j'appelle des médias depuis la Croatie, j'envoie des messages. Et quand j'arrive à chez moi, à Paris, à Beaumont, en 95, avant de rentrer dans mon quartier, je sais pas pourquoi, je dis à Siga qui vient me chercher, je lui dis « Attends ». Attends avant de rentrer, j'ai dit si j'arrive, si je rentre et que je vois que tout le monde me regarde, c'est que ça, il s'est vraiment passé quelque chose et je lui dis je pense qu'il y a quelque chose qui va changer. Je reste 20 minutes et je décide de partir. Je décide de rentrer dans mon quartier et en rentre en fait c'est une allée et donc dès que j'arrive, j'ai comme si tout le monde m'attendait et j'ai le regard, j'ai tous les regards de tout le monde, de tous les habitants sur moi. Je m'arrête pas. Je monte chez moi, je reste quelques heures. Je vois ma famille, mes enfants, on pleure et je repars. Et je redescends tout de suite. Et là, il y a quelque chose qui se passe en moi. Je me dis, on a tué mon petit frère, ça se passera pas comme ça. Et je me suis dit, waouh, on est le 19 juillet, c'est l'été. Et j'avais cette image de la rentrée. J'ai encore la scène dans la tête où je voyais les enfants aller à l'école. Les lycéens rentraient dans leur lycée, les personnes rentraient de vacances et reprendre leur travail, et comme si que c'était rien passé en été, et comme si qu'Adama Traoré n'avait pas existé. Et je me dis, mais c'est des gens que je vais croiser et qui vont pas savoir que mon frère est mort. Et je me suis dit, non, jamais de la vie. Il faut que je me batte pour que tout le monde sache que mon frère est mort. Mais j'avais un objectif, c'était d'arriver en septembre, qu'on sache ce qui s'est passé en été. Et pourquoi c'est moi qui prend la parole, on ne le décide pas, ça se fait naturellement. Nous, on est, comme vous venez de le dire, on est une grande famille. Quand mon père arrive en France, il va épouser, dans un premier temps, Elisabeth, avec qui il va avoir deux garçons. Il va se séparer d'Elisabeth, il va se mettre avec Françoise, avec qui il va avoir cinq enfants. Quand il va se séparer de Françoise, il va se marier avec ma mère. Donc, quand moi j'arrive, mes grands frères sont déjà très grands. Aujourd'hui, pour vous dire, ils ont au moins, le plus grand, il doit avoir 60 ans. Ça veut dire qu'ils sont très grands, ils ont déjà pris leur indépendance. Ils viennent à la maison pendant les vacances. Et c'est moi qui est à la maison, c'est moi qui est la plus grande de mes petits frères. Mon père va tomber malade. Donc je suis à la maison, donc je m'occupe aussi de mon père. Ça se fait assez naturellement parce que je suis dans le quotidien familial. Donc quand mes frères et sœurs, que ce soit mes petits frères ou mes grands frères, parce qu'on est très proches, mon père a élevé ses enfants... On était au centre, c'est pour ça qu'on est très très proches. Il a mis ses enfants au-dessus de tout le monde. Et je me dis toujours que si mon père avait été vivant, peut-être qu'on n'aurait pas vécu ce 19 juillet, parce qu'il protégeait beaucoup ses enfants. Et après sa mort, c'est comme si on était parachuté, qu'on était dans le vide et à qui allait s'accrocher le mieux. Et avant de mourir, il va dire, s'il arrive quelque chose à l'un d'entre vous, il faut que vous soyez là les uns pour les autres. Et moi, j'étais là dans le quotidien, j'avais les cartes bleues, mais rien ne m'était imposé. C'était quelque chose que j'avais envie de faire. Et quand mon père va mourir, pour moi, je me suis dit, mes petits frères, il faut que j'en prenne soin. Il faut que je m'occupe de mes petits frères. Et c'est ce que je vais essayer de faire. J'avais 14 ans, mais je vais essayer de le faire du mieux que je pouvais. Et donc, quand Adama va mourir, ça se fait naturellement. Les regards, en tout cas, se tournent vers moi, dans ma famille, et on y va. Et depuis 7 ans, on avance... d'une seule et même voix qui est la mienne, mais toutes les décisions sont prises collectivement.
D'accord. Donc en fait, tu es devenu le leader, le chef de famille leader par rapport à ce combat, mais la fratrie est là et toutes les décisions se font collectivement. Ça, c'est important. C'est-à-dire que toi, tu es entouré et tu as tout le soutien de cette fratrie.
Tout le monde, et on me pose souvent la question, mais comment tu fais? Et je lui dis, mais je ne suis pas toute seule. On peut se reposer les uns sur les autres. Et je suis vraiment pas toute seule, quoi. Vraiment, on s'appelle souvent, on se voit très souvent. Mais même si il y en a qui sont à Bordeaux, en Espagne, nos enfants vont les uns chez les autres. Et mon père nous a élevés d'une façon vraiment à... Chez nous, il n'y a pas de demi-frères et sœurs. Parce qu'on était vraiment au centre, c'était vraiment ses enfants. Il a mis ses enfants au-dessus de ses femmes, des femmes qu'il a eues. Et pour lui, on était vraiment, c'était ses enfants, c'était quelque chose de très très grand, très beau. Il y avait des liens très forts déjà dans son vivant, et ce qui a continué. Nos grands frères sont toujours très bien occupés de nous, même après sa mort. Mais même aujourd'hui, hein, même mes grands frères, quand il y a quelque chose, on dit bon bah, Assa elle a dit quoi, mes petits frères, bon bah, ma sœur elle a dit quoi. Et les décisions se font comme ça, et rien ne se fait. Et même quand je prends une décision. Parce que j'ai pas le temps de les consulter, ils disent mais si ma sœur, elle a dit que c'était comme ça, y a pas de problème quoi. Donc le combat on le porte assez facilement pour ça, parce qu'on est je suis très entouré.
Et c'est important parce qu'il faut que vous, en tant que leader et porte-voix, vous puissiez vous ressourcer, recharger les batteries. Et puis il y a se ressourcer, recharger les batteries, mais aussi avoir des épaules sur lesquelles s'appuyer, parce que on n'est pas des Wonder Woman et à un moment donné on a besoin de support et de soutien.
Mais c'est important, mais on peut pas. On me demande souvent est-ce que t'es fatigué, je leur dis mais comme toi, comme n'importe qui. Il m'arrive des fois de me coucher très tard, de me lever très tôt, d'avoir de très longues journées, mais je prends aussi des moments pour moi et ma famille. J'ai trois enfants. Mes enfants, depuis même avant le décès de Adama, ma mère venait chercher mes enfants, même le week-end, même quand j'avais pas le temps de les ramener. Ils sont très très proches de leur grand-mère. Ils vont souvent là-bas. Donc j'ai pas de charge. En plus, je peux me reposer sur ma famille si j'ai besoin de quelque chose. Mais mon petit frère, je peux l'appeler tout de suite. Je lui dis, mais est-ce que tu peux aller? Est-ce que tu peux aller à Marseille me chercher quelque chose? Il me dira pas non. Il me dira oui. Il y a quelque chose de très fort, de très respectueux aussi. Hein. On s'aime beaucoup. Hein, c'est pas. Et la mort d'Adama, ça, comme je dis, ils ont enlevé quelque chose en nous qu'on pourra plus jamais avoir. C'est l'amour et la vie de mon petit frère. Mais aujourd'hui, nous sommes les voix vivantes d'Adama. Je suis la voix vivante de mon petit frère et on avance pour ça, et je pense qu'on est debout aussi pour ça. Et ça, c'est très important. Et après, moi, je pars du principe que le combat, c'est le combat Adama, mais c'est un combat qui doit être porteur, qui doit être porteur d'espoir, qui doit pouvoir faire rêver les gens. Pourtant, on part d'un combat, mais il y a beaucoup trop de problèmes. Chacun peut venir nous raconter ses problèmes pour pouvoir, en tout cas, avancer dans le combat. Il faut, en tout cas, qu'il soit aussi porteur d'espoir.
Porteur d'espoir. Et ce combat, ce comité vérité et ce combat justice pour Adama, à un moment donné, il a été porté par une fratrie, mais tellement fort, et par vous à ça, qu'il a pris un virage, il a pris un tournant. C'est-à-dire que c'était plus seulement votre combat, le combat de la famille Traoré, mais il y a eu un combat national et contre les violences policières.
Quand mon frère va mourir, je me dis waouh, on a tué mon frère. Je m'étais jamais imaginé ça dans l'accompagnement que j'avais avec mes frères, pas une seule fois, et je pense que personne ne se dit ça. Personne se grandit ou se construit avec ses frères et sœurs en se disant que des gendarmes ou la police ou quelqu'un va tuer mon frère, mon père, ma mère. On a un idéal de vie, mais ensemble. Ce comité va se créer quand mon frère va... Parce que dans un premier temps, je me dis, mais on a tué mon frère, les gendarmes vont aller en prison. Je pense pas que 7 ans après, mais pas une seule seconde, je me dis qu'on y serait même 2 ans après. Et ce comité va se créer et je me dis, on est la voix vivante d'Adama, je suis la voix vivante de celle de mon petit frère. Mais le nom d'Adama sera une voix pour tous les autres. Mon frère ne reviendra plus. Et je me suis dit, mon frère ne reviendra plus. Au début, c'était en septembre, je ne voulais pas qu'on oublie mon petit frère. Et je me suis dit, je ne veux plus jamais qu'on oublie le nom d'Adama. Et je veux que le monde entier sache qu'on a tué mon petit frère, qu'on a tué Adama. Et que ce jour-là, mon petit frère, quand il sort de la maison, c'est son anniversaire. Il va mettre une chemise à fleurs, il va mettre un bermuda, il va mettre un bob. Et mon petit frère, il voulait juste faire un tour de vélo. Il voulait juste faire un tour de vélo et mon frère va mourir. On ne peut pas laisser sa mort comme ça. Et je me dis, le combat Adama va devenir le combat de tout le monde. Qu'Adama Traoré, ça sera pour tous les Adama Traoré, ça sera pour toutes ces personnes qui subissent des injustices, des inégalités. Et je me suis dit, je veux qu'on parle de mon frère dans 50 ans, dans plusieurs années, et qu'on dise, il y avait un homme qui s'est fait tuer, il s'appelait Adama Traoré. Et il se fera seulement s'il y a un changement de société, mais avec le nom de... avec tout le monde. Parce que je me dis, je ne peux pas parler. Il y avait un moment donné, je me suis dit, mais je ne peux pas parler que de mon frère, sachant que d'autres subissent des injustices et se font tuer. Je ne peux pas avancer qu'avec le nom de mon frère. Et il faut que ce combat soit porté pour tout le monde. Je me suis dit, bon, ma famille et moi, nous seuls, nous ne pouvons pas porter ce combat seul. Il faut que tout le monde puisse le porter. Et que ce soit un combat où personne ne doit rester spectateur. Parce que souvent, on dit à sa Traoré militante, je leur dis, mais je suis, avant d'être militante, je suis d'abord la sœur d'Adama Traoré. Et le militantisme, pour moi, n'est pas défini, ne devrait pas être défini qu'à nous, ou aux familles de victimes. Ça devrait, pour moi, ça devrait être porté par la société civile. Que ce soit la violence policière ou peu importe pour ce qu'on milite, si la société civile milite, bah, le monde va changer beaucoup plus facilement.
Oui, je vous rejoins sur ça. Et c'est pour ça que, justement, l'ampleur, ce mouvement, ce comité vérité, justice pour Adama, ça a pris une telle ampleur qu'on vous voit régulièrement sur le terrain, auprès d'associations ou auprès de victimes ou de familles de victimes, comme c'était le cas il y a 2 semaines. Je vous ai vu sur le terrain pour justement que la famille, vous accompagniez les familles qui sont victimes de ces violences policières.
C'est normal, moi, on m'a accompagnée, on m'a soutenue, on m'a conseillée. Et c'est normal qu'on puisse le faire. Et pour moi, c'est important qu'ils soient aussi maîtres de leur parole. C'est pas d'être leur porte-parole, mais qu'ils puissent en tout cas s'exprimer eux-mêmes. Pour moi, il n'y a pas meilleure façon de porter un combat si elle n'est pas portée par la voix des familles. Parce que toute l'émotion qui pourra en sortir, je ne pourrais pas le faire, moi. Nous, on peut les accompagner, on peut leur donner de la force. Et ça, c'est important. Et quand on va sur le terrain, pour moi, je suis eux. Les jeunes filles, les jeunes femmes que je vois, je suis ces jeunes filles-là, je suis ces jeunes femmes-là, ces hommes ou toutes ces personnes-là, mais je suis comme vous. Et en fait, ce combat, on le portera ensemble.
On vous a vu aussi aux États-Unis dernièrement, je vous ai vu en couverture du Times. Vous avez fait, il y a quelques semaines ou quelques jours, un discours à l'ONU, à New York. Et ce que j'ai vu de plus beau aussi, c'est une fresque Black Matters. Et sur cette fresque, à l'autre bout de l'Atlantique, il y avait le nom d'Adama Traoré.
Oui, il y a deux fresques. La première, elle est sur The Africa Center, sur la 5e avenue, juste en face du Grand Parc à New York, et la deuxième à Union Square. Il y a 2 ans, quand je vais à New York, et quand je vois le nom d'Adama sur ce mur, qui est une fresque officielle, hein, qui est aujourd'hui reconnue, bah, quand j'arrive, j'ai l'émotion qui monte et je me dis waouh. Et j'ai un sentiment, je vais pleurer dans cette fresque et je vais dire waouh. Et c'est là que je me rends compte, que je me dis c'est énorme ce qu'on a fait. Je me dis, il y a le nom de mon petit frère sur ce mur avec d'autres noms, il y a le nom d'Adama Traoré. Et à ce moment-là, j'avais envie que mes frères, mes sœurs, le comité, et que toutes les personnes qu'on soit sur cette place et qu'on puisse la regarder en même temps. Et qu'on puisse se dire, il n'y a plus de frontières entre la France et les États-Unis, mais il n'y a plus de frontières entre la France et le monde entier. Et que le nom d'Adama, c'est vrai que c'est le nom d'Adama, mais c'est aussi le porte-voix de tous les autres noms. Parce que quand on va dire, mais qui est Adama Traoré, sauf français, tué en France par des gendarmes à cause des violences policières, bon, les autres noms vont automatiquement venir. Et je me dis, mais c'est énorme. C'est énorme ce travail qu'on a pu faire. Et quand je vais à l'ONU, et que et qu'on me donne la parole et qu'on me dit Assa Traoré, membre du comité Adama pour la France. À ce moment-là, je suis française à New York et je me dis, je leur dis, mais c'est Assa Traoré et tous les Français. J'avais ce sentiment de fierté de dire, le peuple français a porté le combat jusqu'ici. Je ne suis pas toute seule. Et parce que je suis à ce moment, je ne suis pas dans mon pays. Je suis ailleurs et le sentiment, à ce moment-là, il est fort, mais en même temps, il est fier. Et j'avais envie aussi, à ce moment-là, que tout le monde soit là. Et j'ai dit, c'est Assa Traoré et le peuple français.
Merci. À ce sujet, je sens que aux US, on vous fait de l'appel du pied et que il y a peut-être des projets qui vont en découler. Est-ce que vous pouvez nous en parler ou ce sera lors d'une prochaine interview?
Ah ben, vous avez... Effectivement, il y a des projets. Et comme j'ai dit, quand je fais la Une du Time, faut savoir que je ne savais pas que j'allais faire la Une du Time. Je la prends en même temps que tout le monde, au petit matin, vers 4h, 5h, 5h. Et j'ai dit que la lumière, on la prendra d'où elle vient. La force, on la prendra d'où elle vient. La différence entre la France et les États-Unis, même si bon, on peut l'entendre souvent, oui, mais il y a aussi des violences policières aux États-Unis. Oui, il y a des violences policières aux États-Unis. Oui, des choses atroces se font et se sont faites au même niveau que la France. Mais la différence, c'est que les États-Unis avancent en même temps que leur peuple. Les États-Unis avancent en même temps que la population. Les États-Unis évoluent. Ils sont dans l'acceptation d'évolution et de reconnaissance de leurs fautes et de réparation. Et quand on est dans cette position-là, on accepte d'avancer en même temps. En France, c'est pour ça qu'il y a énormément de retard, nous avons des années de retard, c'est que la France part du principe que c'est comme ça et c'est pas autrement, n'écoute pas son peuple, n'écoute pas la problématique et ne reconnaît pas et n'avance pas en même temps que son peuple. Elle est là la différence. Effectivement, c'est beaucoup plus dur là-bas, parce que déjà c'est plus grand, mais elle avance. Nous, on n'est pas dans un avancement, on est dans quelque chose où on dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Et on ne peut pas. Les gens changent. La vie change. La population change. On évolue. Tout évolue. Donc un pays ne peut pas rester sur un même point sans évoluer. Donc oui, aujourd'hui, quand on a cette lumière et cette force qui vient d'ailleurs, on la prendra des États-Unis. Des projets, oui, sont en cours. Aujourd'hui, dans l'intérêt en tout cas du combat Adama, et j'espère qu'on en parlera très prochainement, donc je pense qu'on en parlera même très très rapidement, et tout le monde l'apprendra comme tout le monde a appris le time.
Mais merci en tout cas à ça, merci de m'avoir accordé cette interview. On se retrouve le 8 juillet dans la rue pour la marche pour justice pour Adama et pour tous ceux en fait, pour tous les Adamas et pour toutes les familles que vous accompagnez en France. Et on sait maintenant que ce combat, il est international et que vous êtes une des porte-voix de ce combat international. Merci beaucoup.
Merci.
Et on se retrouve bientôt.
Merci.
J'en suis sûre.
Le 8 juillet, on vous attend nombreux et on ne peut pas demander justice pour Adama. On ne peut pas demander de vivre dans un monde libre circuler librement si d'autres aussi subissent des injustices. Donc ça ne serait pas cohérent avec notre message. Donc c'est une marche pour Adama, mais pour toutes les injustices et pour tout le monde et à tous les niveaux. Peu importe d'où tu viens, qui tu es, ton appartenance religieuse ou pas, ta couleur de peau, ton appartenance sexuelle ou pas, c'est un combat qui doit être porté par tout le monde et pour tout le monde.
Merci. Rendez-vous le 8 juillet.
À Beaumont-sur-Oise, 14h.
Merci à ça et à très vite.
À bientôt.